Bonjour à tous. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 11, versets 2 à 17. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Un Corinthiens 14, versets 26 à 40. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qu'ils parlent en langue, que deux ou trois, ou au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Deux textes de l'apôtre Paul que certains prennent à la lettre pour empêcher les femmes d'occuper une place juste au sein de l'Église et du couple. Une place juste, ni au-dessus, ni au-dessous de l'homme, mais simplement comme vis-à-vis. Dès la création du genre humain, en Genèse 1, verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Deux êtres égaux, à l'image de Dieu, néanmoins différents dans leur apparence physique, dans leur fonctionnement physiologique et leur capacité à perpétuer la vie d'une génération à l'autre. La Bible est un ensemble de textes écrits par différents auteurs à différentes époques de l'histoire de l'humanité. Ces textes nous révèlent l'existence de Dieu et nous parlent de la relation que Dieu veut entretenir avec ses humains créés à son image. Le texte biblique est cohérent de la première à la dernière page. du premier verset de la Genèse, au commencement Dieu créa, au dernier verset de l'Apocalypse, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Nous avons lu 1 Corinthiens 11, verset 3, l'homme est le chef de la femme, et en 1 Corinthiens 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est simple, c'est clair, et pour le commentateur de ma Bible, il écrit « Le principe me paraît universel et applicable sans aucune restriction géographique ni culturelle. » John MacArthur, ça veut dire. Pour un théologien qui a passé une grande partie de sa vie à étudier et commenter l'Ancien et le Nouveau Testament, il fait preuve d'une opinion théologique contestable. Ce matin, nous essaierons dans un premier temps de comprendre dans quel contexte et dans quel but Paul a écrit ces phrases. Dans un deuxième temps, nous aborderons quelques passages qui valident positivement le ministère féminin. Et dans un troisième temps, nous évoquerons le style de relation qui convient aux frères et sœurs dans l'Église. Lorsque l'apôtre Paul écrit sa première lettre à l'Église de Corinthe, apparemment, il répond, dans la mesure du possible, à un certain nombre de questions que les Corinthiens chrétiens se posent. Corinthe est une ville grecque prospère, avec en particulier un temple païen dédié à Aphrodite, déesse grecque de l'amour, avec à son service un millier de prêtresses, qu'on appelle des prostituées religieuses, qui vivaient et travaillaient sur le site, descendaient en ville le soir pour rendre leur service aux citoyens de la ville et aux visiteurs étrangers. L'église de Corinthe a été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Le problème le plus important de l'église de Corinthe était son attachement au monde, son refus de se distinguer de la société environnante. La plupart des croyants ne parvenaient pas à renoncer vraiment à leur ancienne manière de vivre, immorale, égoïste et païenne. Paul lui-même est un citoyen romain de naissance. Il est juif et pharisien, très familiarisé avec la culture grecque de l'époque. Trois mondes culturels différents, en particulier en ce qui concerne la place des femmes dans la société. Pour les Romains de l'époque, la femme n'a pas de droit civique, elle fait ce qu'elle veut, tant qu'elle ne touche pas à l'autorité contrôlée par les hommes. Dans la culture grecque classique, la femme est considérée comme une chose qui sert à mettre au monde les enfants. Dans la culture juive, la femme est considérée comme une citoyenne de seconde zone, cantonnée à s'occuper du foyer familial. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, est imprégné de ces idées de son époque. Apparemment, dans l'église de Corinthe, des femmes se sont émancipées et contribuent à créer une ambiance particulière lors du rassemblement de l'église. L'église de Corinthe est une communauté où les uns et les autres avaient reçu des dons de l'esprit, comme le parler en langue ou le don de prophétie, comme nous avons pu le lire au chapitre 14 en particulier. De toute évidence, les chrétiens de Corinthe étaient plus préoccupés par l'importance de l'expression des dons qu'ils avaient reçus que par la mise en œuvre d'une vie de disciple de Jésus-Christ. Au chapitre 5, au verset 1, on peut lire. Donc c'est Paul qui écrit toujours à l'église de Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et au chapitre 6, les versets 9 et 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous voilà au cœur du problème des chrétiens de Corinthe. Changer de vie, tourner le dos aux mœurs décadentes et dépravées de la société de l'époque. Changer les relations entre les personnes de l'Église pour l'image et la gloire de Dieu. Le texte que nous avons lu sur le chef, sur les cheveux coupés ou rasés, et sur la pertinence du voile, peut être interprété comme un texte qui rappelle simplement les incohérences de pratiques des Corinthiens. Et c'est le verset 11 qui termine la séquence et qui éclaire la situation. Toutefois, dans le Seigneur, La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Vis-à-vis au même niveau. Sous-entendu, ni les accessoires vestimentaires, ni la coiffure, ni la coupe de cheveux n'expriment la qualité de notre attachement et notre fidélité au Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons femmes ou hommes. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 25 à 29, Paul va même plus loin. Donc Galates 3, versets 24 à 29. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. En Christ, les distinctions qui existent dans la société ne comptent plus, y compris les distinctions homme-femme et leur statut établi par la société dans laquelle chacun vit, juive, grecque, romaine du 1er siècle ou française du 21e siècle. La clé de la compréhension de ce passage est bien le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Comme pour dire aux Corinthiens, arrêtez de discutailler sur la longueur des cheveux, sur les couvre-chefs, et que votre vie reflète la gloire de Dieu et non la vôtre. Dans le deuxième passage que nous avons lu, Paul révèle que l'expression des dons de parler en langue et de prophétiser perturbe la sérénité de rencontre de l'Église. Il sous-entend que les dons de l'Esprit reçus par les chrétiens de Corinthe perturbent le bon déroulement des rencontres où Dieu doit être au centre et non les performances de ceux qui expriment leurs dons. Au verset 26, nous lisons « Que tout se fasse pour l'édification ». Au verset 23, nous lisons « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix ». Et au verset 40, « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Je pense que les mots-clés du passage sont bien l'édification, ce qui aide l'Église à grandir, la paix, c'est le projet permanent de Dieu pour l'humanité, l'apaisement des relations, la sérénité lors des rencontres de l'Église en particulier, et la bienséance qui sous-entend l'écoute et le respect mutuel plutôt qu'une ambiance de folie qui met tout le monde à cran. Alors, cette recommandation particulière à l'Église de Corinthe concernant la prise de parole par les femmes dans l'Église n'est pas généralisable. Le verbe « se taire » employé au verset 34 apparaît environ 300 fois dans le Nouveau Testament et présente une gamme de sens très large, y compris celui de ne pas parler d'une façon inconsidérée. Il pourrait s'agir ici simplement de s'abstenir de discutailler, de se quereller sur les doctrines, ou d'entretenir un conflit avec les hommes et de s'imposer à eux pour prendre une revanche. Comprendre le texte biblique n'est pas toujours immédiat. Avec des versets sortis de leur contexte et des interprétations littérales au premier degré, l'édification, la paix de Dieu et la bienséance passent quelquefois à la trappe. Alors, qu'en est-il du ministère féminin? Qu'en est-il de la mise au service de l'Église des dons que reçoivent les femmes? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, des versets 1 à 16, Paul transmet ses salutations à une trentaine de collaborateurs de son action pour les Églises. Sur 27 noms cités, 10 sont des femmes. Philie à Sancré, Prisca, Marie, Junias, Tryphène et Tryphose, Perside, la mère de Rufus, Julie et la sœur de Néré. 10 femmes dont le nom est cité, dont l'action n'est pas toujours précisée, mais qui ont exercé des responsabilités au 1er siècle pour la diffusion de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité. Jésus lui-même a largement bousculé les relations hommes-femmes, en particulier lorsqu'il s'adresse directement à la femme samaritaine, et lorsqu'il accepte que Marie lui lave les pieds avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux. Le dimanche matin de Pâques, c'est bien deux femmes. Marie de Magdala et l'autre Marie, que l'ange envoie annoncer la résurrection de Jésus à ses disciples. Il paraît que l'Église chrétienne du 1er siècle n'avait aucun problème avec le ministère féminin dans l'Église. Je cite Alfred Kuhn, c'est pas de moi, je n'oserais pas. La valorisation de la femme par Jésus et par Paul devrait faire rougir de honte ceux qui voudraient rabaisser son rôle dans l'Église à l'exécution de tâches simili-ménagères. Bon, je répète. La valorisation de la femme par Jésus et par Paul devrait faire rougir de honte ceux qui voudraient rabaisser son rôle dans l'Église à l'exécution de tâches simili-ménagères. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ, partout dans le monde, a besoin que tous les dons accordés aux uns comme aux autres par l'Esprit-Saint puissent s'exprimer pour l'édification et la paix de Dieu dans l'Église. Aucune autorité mâle n'a la légitimité pour imposer le silence à la gente féminine. C'est à la communauté, à l'Assemblée, de discerner et de favoriser l'expression des dons des uns et des autres dans la mesure où l'objectif est de rendre visible le royaume de Dieu dans le monde. Nous vivons un temps où la société occidentale revendique l'égalité femmes-hommes et l'arrêt des violences infligées abusivement à certaines femmes par certains hommes. Si ce combat engagé par la société civile permet de rendre le vivre ensemble plus paisible, il est bon que l'Église ne soit pas en reste ou en retard pour aspirer à des relations apaisées femmes-hommes dans le couple, dans la vie sociale, travail, vie associative et engagement politique. Nous arrivons au troisième point. Quel genre de relation convient aux frères et sœurs qui vivent dans l'Église? Jésus a donné l'exemple en se mettant au service de ses disciples, en particulier lorsqu'il a pris l'initiative de procéder au lavement des pieds de ses disciples. Jésus a dit, Matthieu 20, verset 16, « Les derniers seront les premiers seront les derniers. » À la fin de la parabole qui octroie le même salaire aux ouvriers qui ont travaillé toute la journée, et à ceux qui ont pris le service pour la dernière heure. Plus de hiérarchie, plus de compétition pour prendre la place l'un de l'autre, plus d'individualisme égoïste, plus de compétition pour prendre le pouvoir. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 5, les versets 15 à 21. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Suit le passage qui dit que les femmes soient soumises à leur mari et que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La soumission et l'amour, voilà les clés d'une relation paisible pour un bon témoignage et pour la gloire de Dieu. Se soumettre les uns aux autres, c'est le contraire de s'imposer avec force et contrainte. Se soumettre les uns aux autres, c'est rechercher le consensus, c'est rechercher le chemin à suivre ensemble. Se soumettre les uns aux autres, c'est le contraire de l'unité derrière un chef qui impose sa façon de comprendre aux autres. Se soumettre les uns aux autres, c'est avoir la conviction que même si on n'est pas d'accord sur les détails, on peut quand même construire ensemble et essayer de rendre visible le royaume de Dieu. Se soumettre les uns aux autres, c'est accepter que Christ soit le chef, il est à la tête de l'Église. Ensuite, l'amour. Selon l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6, l'amour est patient, Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Chaque être humain, femme comme homme, aspire profondément à être aimé. La Bible nous parle constamment de l'amour de Dieu pour les humains. Jésus a donné sa vie sur la croix par amour pour l'humanité. Le Nouveau Testament révèle que Dieu est pour nous un Père qui nous aime. Vous avez déjà entendu que les Grecs utilisaient trois mots différents pour évoquer l'amour. Eros, pour l'amour charnel et passionné. Phila, pour l'amour tendre, paisible des couples unis ou des parents pour leurs jeunes enfants, et agapé, qui est l'amour qui donne au lieu de prendre, c'est l'amour qui se fait petit au lieu de prendre toute la place, l'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien, l'amour affranchi de l'ego. Soumission réciproque et agapé, c'est la relation qui convient aux frères et aux sœurs dans l'Église, quel que soit le contexte géographique, social et culturel. Pour conclure, une fois de plus, je citerai 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « Mais examinez toutes choses et retenez que ce qui est bon. Pour que notre témoignage concernant la réalité de la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ soit crédible, nous devons faire attention à ne pas faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Les premiers chrétiens, après la première Pentecôte, où des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont eu l'envie, la force et la volonté d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'avènement du royaume de Dieu Rapidement, des églises sont nées dans tout le bassin méditerranéen. Un des messages était que le retour de Jésus était imminent et qu'en attendant, le Saint-Esprit, par les dons distribués, nous guiderait pour la conduite dans la vie quotidienne. À Corinthe, ce message était bien reçu et la conséquence a été que la conversion de beaucoup de membres de cette nouvelle Église n'a eu aucune conséquence sur leur vie quotidienne de débauchés. Il est vrai qu'à cette époque, les 4 évangiles qui révèlent l'enseignement de Jésus-Christ n'étaient pas encore rédigés. Aujourd'hui, nous pouvons lire, méditer et nous approprier l'ensemble des conseils et enseignements de Jésus pour devenir d'authentiques disciples, hommes ou femmes, à l'écoute du Maître. Les chrétiens sont appelés à entrer dans cette nouvelle dimension nouvelle où les relations ne sont plus divisées par le sexe, le rang social, la culture ou la race, mais où les relations sont normalisées dans la réciprocité. Amen.